Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Voilà, c'est la 13e saison, donc on vous souhaite une bienvenue dans le monde noir, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous découvrent. Voilà, on va vous parler des romans noirs qui nous passionnent. Et pour commencer, je vais
remercier Philippe de nous accompagner cette année encore derrière la vitre aux petites manettes. Merci beaucoup.
Voilà, donc moi je vais repartir dans mes romans et je vais commencer par vous donner des nouvelles de l'Amérique. L'Amérique, pas du côté de l'American Dream, du capitalisme triomphant. Non, on va dire l'envers du décor. Comme ont pu le faire, en leur temps, des écrivains comme Faulkner, Erskine Cardwell, ou bien encore, plus proche de nous, Harry Crowes, Jim Thompson. On va parler de cette Amérique des déchus et des laissés pour compte, dans deux romans qui ont beaucoup de points communs. Points communs en tout cas essentiels, une qualité d'écriture assez impressionnante, d'autant que le premier roman dont je vais vous parler, c'est le premier roman de Benjamin Whitmer. Ce roman s'appelle Pike, il est paru aux éditions Gallmeister, et d'ailleurs, il inaugure une nouvelle collection qui s'appelle Jacques.
Qui s'appelle Noir, Noir et Noir E, puisque c'est la collection.
Voilà, on s'éloigne peut-être un peu du Nature Writing, quoique. Et ce roman, je vous ai parlé de la qualité d'écriture, on le ressent d'autant mieux parce qu'il y a une excellente traduction de Jacques Mayos. Benjamin Whitmer nous entraîne dans une Amérique déglinguée, à la ramasse totale, où l'âpreté des paysages du Kentucky et de l'Ohio n'a rien à envier avec l'aridité et la rudesse des personnages de ce roman. Comme il le dit lui-même, ici, on ne possède rien sans y mettre du sang. Et ça, c'est vrai de Pike, le personnage principal, donc qui donne son titre au roman, qui tente d'oublier la violence de son passé, avec à ses côtés Rory. Lui, c'est un jeune. Pike, il a déjà bien roulé sa bosse. Pike, c'est un jeune boxeur paumé. Et on sent bien que tous deux sont englués dans des drames anciens. On le ressent dès les premières pages, et petit à petit, on décryptera ces drames. Il n'est pas question pour eux d'oublier. Juste le temps de s'étourdir de temps en temps. S'étourdir, c'est aussi ce qu'a voulu faire Sarah, la fille de Pike. Malheureusement, elle est morte d'une overdose en laissant Wendy, sa fille, 12 ans, seule. Et Pike, qui a plus l'habitude des adultes et, je dirais, d'un certain banditisme, il va voir arriver cette fillette un peu comme une rédemption possible. Et pourtant, Wendy, on ne peut pas dire que c'est la douceur incarnée. Il semble qu'elle a vécu l'indicible. Elle griffe, elle mord, elle se hérisse. Elle a un vocabulaire de charretier. Et puis, elle promène son petit chaton, Monster, qui griffe et se hérisse pas mal aussi. Mais c'est une gosse. Avec peut-être, cette gosse, elle a peut-être un avenir. Et c'est un mot que Pike et Rory avaient banni de leur vocabulaire. Autre personnage important de ce roman, Derrick. Lui, il est flic à Cincinnati. Et il applique sa propre loi avec son calibre 45 et son poing américain. Il parle des putains de négros, qui ne négligent pas de descendre, et puis il casse pas mal la figure aux putes junkies, comme il dit. Derrick va quitter la capitale de l'Ohio pour rôder autour de Wendy. On comprendra petit à petit pourquoi. Pike, lui, fait le chemin inverse pour comprendre pourquoi et comment Sarah, sa fille, est morte. Ces deux-là vont donc se croiser et inévitablement s'affronter. En un duel qui fera bien des dommages collatéraux et qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts autour d'eux. Il va y avoir quelques cadavres. Le décor est planté. Motel miteux, ruelle sordide, rat paumé, immeuble noir de crasse. C'est un décor qui rappelle quelque chose. Il y a quelques années, on a plongé dans ce décor très américain avec les romans de David Goodis. Et ce roman a beaucoup, beaucoup de points communs avec les livres de David Goodis. Une même désespérance des personnages, leur solitude, le manque total d'espoir. En gros, la rédemption est quasi impossible. Et puis surtout, on a effacé entre la frontière entre les bons et les méchants. Par exemple, il semble que Pike, qui veut venger sa fille et sauvegarder sa petite fille, est du côté des bons. Mais vu ce qu'il est capable de faire, c'est pas si évident que ça. Et le putain de flic de Derrick, lui aussi, il a ses failles et les fêlures. Et le fait qu'il recherche Wendy, c'est peut-être pas pour la mauvaise cause. Et si on compare ce roman Pike avec les romans de Jacques Goudis, évidemment, David Goudis, c'est pour en dire sa qualité, parce qu'on considère David Goudis comme un des plus grands romanciers américains. C'est, vous l'avez compris, un coup de cœur. C'est un coup de cœur d'autant plus grand que ce roman est illuminé d'une écriture épurée, aiguisée, tranchante, qui taille à vif, aussi bien dans les cœurs et dans les corps. Les dialogues, ils sont minimalistes. En gros, il est plus temps de parler. À quoi bon peuvent encore servir les mots? Et puis, il y a quelques magnifiques envolées quand, finalement, je cite, « les problèmes de l'Ouest continuent à se dérouler jusqu'à l'horizon, comme les conséquences de son moi plus jeune, comme les commotions de son propre passé qui continuent à lui revenir en écho. » On verra dans le deuxième roman que les envolées lyriques sont aussi une des qualités importantes de ce genre littéraire. Et puis là, on a deux certitudes. Quand on aura fini ce roman, c'est que vous n'aurez pas forcément envie d'aller vous balader au pays du Jack Daniels, dans le Tennessee, dans le Kentucky, dans l'Ohio. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que vous aurez hâte de retrouver Benjamin Whitner dans un deuxième roman. Et on espère bien que les éditions Gallmeister et toute son équipe sont déjà à la traduction du deuxième. Mais je crois bien qu'une indiscrétion me fait dire qu'il va y avoir un deuxième roman en France. Le deuxième roman dont je vais vous parler est un roman de Ron Rash. Ron Rash, il commence à être un habitué de nos émissions. Le dernier dont on a parlé, Serena, est d'ailleurs en route pour les trophées 813. Il a été sélectionné dans les 5 finalistes. Celui-ci s'appelle Le monde à l'endroit. Il est paru il y a très peu de temps. Il est traduit par Isabelle Reynarez et il est aux éditions du Seuil. Ce roman, on pourrait le résumer par une seule phrase, le paysage tel un destin. Et en gros, la question, est-ce que dans notre patrimoine génétique, l'histoire de notre terre, de nos ancêtres, est écrite? Est-ce que ça peut avoir une influence sur nos actes, sur notre histoire à nous? Lorsqu'on lit ce magnifique roman de Ron Rash et que l'on suit Travis, le personnage principal, on peut s'en persuader. Plantons le décor, on est donc à la fin des années 70, dans un coin de Caroline du Nord, là où la nuit, je cite, « le cœur des montagnes, d'un noir de charbon, se déverse et monte juste vers le fond du ciel. » On a un jeune homme, comme Travis, qui n'a que la culture du tabac comme avenir. Il est révolté par la dureté, l'intransigeance de son père. Donc, il erre dans la campagne, et puis il tombe sur des champs de cannabis. Donc, pour s'arrondir les fins de mois, il fauche quelques plantes cannabis que cultivent Toumé et son fils. Et puis, il va les vendre à Léonard, qui vit dans une caravane. Toumé, lui, on dit qu'il peut énucléer un homme avec son doigt. Et puis, Léonard, on dit aussi que c'est un ancien prof, mais qu'il a tué sa femme. C'est qu'on en dit des choses dans cette cambrouse, où les souvenirs de la guerre de sécession hantent toujours les esprits. C'est quand même plus d'un siècle plus tard. Et ça alimente des haines farouches entre les familles du coin. Quel avenir donc, on le disait tout à l'heure, quel avenir donc pour Travis? Surtout lorsqu'on est pris sur le fait par Toumé et que celui-ci vous coupe votre talon d'Achille, au propre comme on figurait. Mais en fait, n'est-ce pas là l'épreuve initiatique qui va permettre à Travis de remettre son, je cite le titre, son monde à l'endroit? À partir de là, protégé, accueilli par Léonard, qui se révèle un érudit et un père adoptif idéal, cet homme, profondément blessé, saura, mieux que son père biologique, lui transmettre un héritage et peut-être, mener l'ado vers un avenir, si ce n'est serein, du moins apaisé. Il va lui permettre de mieux comprendre son environnement, en particulier les traces d'un passé sanglant. On va apprendre que pas loin s'est passé un massacre, le massacre de Shelton Laurel en 1863. Et plus d'un siècle plus tard, ce massacre suscite encore de lourdes rancœurs et des haines tenaces dans les familles de la région. C'est un roman noir qui puise sa trame dans les tragédies antiques, un roman d'initiation, un roman des grands espaces, et enfin un roman social profondément humaniste. L'histoire que nous raconte Ron Rash est encore et toujours chargé du sang et de la sueur des hommes qui y vivent, qui triment et s'entretuent. Les paysages y sont durs et arides, j'en parlais déjà dans le roman de Benjamin Wintner, et la sueur des hommes qui... Et c'est un petit peu comme le cœur des habitants aussi. C'est ce que je disais aussi pour le roman de Benjamin Wintner. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de comparaisons. L'écrivain américain, il connaît bien ses endroits et ses hommes, et il les décrit magnifiquement, avec grâce et poésie, avec amour, et encore une fois, avec un immense talent. Alors je voudrais finir par un petit extrait qui montre justement ses envolées lyriques dans ses romans. Donc c'est un extrait du Monde à l'endroit. Léonard sirota sa bière en écoutant la nuit. Le vacarme des grillons et des cigales, un feu croisé, semblait plus intense, presque frénétique, comme s'ils s'avertissaient les uns les autres des soirs prochains où leur voix serait réduite au silence. Ce qui ne saurait tarder, songea Léonard. Bientôt aussi, moins de chants d'oiseaux. Les engoulevents et les petites buses s'envoleraient les premiers vers le sud, puis les passereaux et les moineaux. Les vipères cuivrées se glisseraient entre les pierres et sous les escarpements pour s'y terrer. Environ une semaine plus tard, les crotales des bois, que certains appellent des dos de satin, feraient de même, s'enroulant en nœuds de chair et de crochets, pareils à des méduses. Tout deviendrait sombre et amoindri, comme si les montagnes avaient étendu leurs épaulements et repoussé la plus grande part du monde environnant au fur et à mesure qu'elles s'armaient pour l'hiver. Vous l'aurez compris, on est en automne, l'hiver va arriver et va recouvrir de neige ces immensités glacées. Voilà.
Donc avant de passer au roman suivant, un petit morceau d'un groupe qui s'appelle Lynyrd Skynyrd, qui est évoqué par Ron Rush lui-même. Le titre lui-même est choisi par Ron Rush, alors pourquoi je me gênerais. Le morceau s'appelle Free Bird, et écoutez donc les guitares de Gary Hossington et Allen Collins pendant quelques instants. Et son bel oiseau, et aller faire un petit tour en Norvège.
Voilà, donc on revient en Europe pour un roman d'un habitué de notre émission. Cet écrivain s'appelle Gunnar Stollesen. Ce roman s'appelle Comme dans un miroir. Il est paru chez Gaïa Édition. Je rappelle que les éditions Gaïa sont les spécialistes de la littérature scandinave. Et ce roman, comme beaucoup de romans de Stollesen, est traduit par Alexis Fouillé. La question qui est posée dans ce roman, c'est en gros, est-ce que l'histoire se répète? Est-ce que le destin de deux femmes, à 40 ans d'intervalle, peut suivre des parallèles et se lire ainsi que dans un miroir, reflet l'une de l'autre à travers des années? Surtout que ces deux femmes sont mère et fille. C'est ce que doit penser Varg Veum d'ailleurs, puisqu'il va enquêter sur les deux destins. Varg Veum, je rappelle que c'est le personnage principal de tous les romans, enfin de la majorité des romans de Gunnar Stollesen. Il a aussi écrit 6 tomes sur le roman de Bergen, où là, Varg Veum n'apparaît pas. Varg Veum, c'est un détective, et dans les années 90, ce qu'il faut que je précise peut-être, c'est que si ce roman vient de paraître en France, il a été écrit dans les années 2000 par Gunnar Stollesen, et donc on revient 10 ans encore en arrière, on est dans les années 90, une femme disparaît. Sa sœur, inquiète, demande au détective de la retrouver. En fouillant un peu, Varg Veum se rend compte que leur mère à toutes les deux, a suivi un destin semblable, tout au moins similaire, tuée avec son amant dans un accident de voiture. Alors, les similarités. Les lieux sont les mêmes, les deux femmes sont des beautés fatales, et autour d'elles rôde le jazz, sous la forme de deux beaux saxophonistes. Donc, Varg Veum se pose beaucoup de questions sur les deux histoires. Dans l'histoire récente, est-ce que la fille est morte et où est-elle? Et dans l'histoire ancienne, est-ce que l'accident n'était pas en fait un crime maquillé? Comme à son habitude, comme dans tous les romans, le détective norvégien va prendre son temps. Pourtant, nouveauté, il est maintenant doté d'un téléphone portable, ce qui devrait simplifier certaines démarches, mais c'est pas évident avec ce détective. On va partir dans les montagnes là. Et le temple semble s'être arrêté dans les chalets enneigés, et les vieilles histoires qui ressortent, si elles sont dramatiques, laissent néanmoins un parfum de nostalgie, ce qui incite peut-être à la flânerie. Ce qui n'est pas le cas des histoires récentes, quand Varg Veum enquête sur la disparition de la jeune femme actuelle, parce que cette disparition va faire apparaître de bien odieux trafics. Et Varg Veum devra donc accélérer ses pas et ses pensées s'il veut résoudre les deux affaires. C'est donc le 11e épisode de la série Varg Veum, et franchement, on ne s'en lasse pas. Ce roman constitue une chronique sociale, historique de sa ville natale, Bergen, et il continue ici. Ici, il y a des allers-retours entre le présent et le passé qui permettent à l'écrivain de vagabonder dans l'histoire et de digresser sur l'atmosphère un petit peu désuète des années 50, quand les femmes portaient des robes longues pour aller dîner, même lorsqu'il y avait de la neige, et lorsque ces messieurs n'hésitaient pas à casser la figure de leurs rivaux en amour. Mais, quand ils parlent de l'heure actuelle, c'est aussi une façon de se rendre compte d'une modernité qui ne lui convient pas du tout, qui a cassé des traditions familiales, amicales, dans cette petite ville norvégienne qui ne peut, au grand regret de Gunnar Stollesen, se protéger de la mondialisation et de ses méfaits. Voilà, je rappelle le titre, Comme dans un miroir, chez Gaïa Éditeur. C'est un roman de Gunnar Stollesen. On se retrouve dans la deuxième partie d'émission.
Après les infos, au revoir.